Alors, Kassoum Maïga, bonjour.
Oui, bonjour Denis.
Alors, vous étiez le dernier porte-parole du dernier gouvernement de Roch Kabore. Alors aujourd'hui, quelle appréciation vous faites justement de la situation sécuritaire au Burkina Faso?
Je ne suis pas là dans la peau du porte-parole, mais je suis là comme un Burkinabé ordinaire, professeur de sociologie qui observe, qui a été dans l'action gouvernementale. Nous avons tenté de faire ce qu'on devait et ce qu'on pouvait faire, mais les événements sont les événements. Et aujourd'hui, il faut avoir beaucoup de pensées pour les Burkinabés qui souffrent dans leurs âmes et dans leur chair du fait de l'insécurité. Et je pense que rien que pour ces raisons-là, il n'y a pas lieu de polémiquer sur des questions aussi sensibles que celles de l'insécurité. Le constat est là. Tout le monde constate effectivement que nous ne sommes pas sur la piste de l'amélioration. Mais nous devons nous donner les coudées franches pour que plus jamais de souffrance dans ce pays-là du fait de l'insécurité.
Il n'y a pas eu d'amélioration, pourtant les nouvelles autorités, le MPSS est basé sur l'insécurité pour mener le coup d'État. Aujourd'hui, la situation semble n'avoir pas évolué. Faut-il en rire ou en pleurer?
Non, je pense que de toutes les façons, on était dans les larmes déjà. Ce pays n'a pas connu un moment de répit, et ça tout le monde le sait. 7 ans où on a espéré pouvoir apporter des solutions. 7 ans où on a tenté ce qu'il fallait tenter, mais chaque fois qu'il y a un Burkinabé qui tombe, il n'y a pas de l'espace pour le rire.
Le gouvernement actuel a décidé donc d'aller au dialogue avec les groupes armés, ceux-là qui ont pris les armes contre leur pays. Pensez-vous que cela puisse être la solution?
Est-ce que lorsque vous avez en face de vous des gens qui ne sont pas clairement identifiés, même si nous pensons qu'une grande partie d'entre eux sont des frères qui ont pris des armes contre leur propre pays, mais il faut déjà identifier ceux qui sont dans cette posture-là pour engager le dialogue. Si on sait où ils se trouvent, si on sait qui ils sont, moi, je n'ai pas de problème qu'on engage des échanges avec eux. Mais quand vous regardez les atrocités sur le terrain, vous ne pouvez pas dialoguer avec des gens qui n'ont pour mode opératoire que de semer la désolation. Ce que nous avons vu à Setenga, ce que nous avons vu dans certaines zones ne laisse pas de place au dialogue avec ces gens. Actuellement, du fait des incursions qu'ils arrivent à faire, ils sont dans la posture de penser qu'ils sont capables assez rapidement de prendre tout le pays. Donc, il ne faut pas qu'on perde notre temps à réfléchir sur des dialogues avec des gens qui sont en train de nous agresser et de semer sérieusement la désolation.
À ce niveau, du côté de la ville de Djibo, à un moment donné, on a cru entendre que le dialogue avait marché, ce qui avait permis à ce que le calme revienne, que la ville soit ravitaillée. Ne pensez-vous pas donc que justement ceux-là qui attaquent le Burkina Faso sont aussi disposés à écouter?
C'est quoi la situation aujourd'hui à Djibo? Si ça avait vraiment marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on retourne à la case départ? Ce sont des stratégies. Lorsque je me sens acculé et que je pense que j'ai besoin d'un répit, je peux effectivement tendre la main pour le dialogue. Mais après, c'est des coups qui partent par derrière la nuque. Lorsqu'on va prendre du terrain sur eux, je pense que le dialogue pourra s'installer. On ne peut pas négocier en situation de faiblesse.
Alors, il y a que le gouvernement annonce également la création de zones d'intérêt militaire. Quelle analyse vous faites par rapport à cette autre question?
Bon, je pense qu'au stade où on en est, tout ce qui doit être tenté pour gagner le combat mérite d'être tenté. Je peux donc commencer par saluer l'idée de dire qu'on va faire des zones d'intérêt militaire. Mais il faut que ça soit fonctionnel. Et si vous faites des zones d'intérêt militaire qui ne sont même pas des zones militaires, l'intérêt se trouve où?
C'est-à-dire,
donc il faut commencer par... Il faut militariser. Bon, si moi je dis, je me crée une zone d'intérêt pour mes activités, c'est que je dois occuper le lieu avec mes activités. Il faut qu'il y ait la présence militaire dans ces zones. Sinon, l'intérêt, il est fictif. Ben, si on découpe des zones et puis on descend des zones d'intérêt militaire, moi, j'aurais voulu que d'abord, on les occupe et après, on opérationnalise en disant que nous sommes dans des zones d'intérêt militaire. Bon, là, on dira aux gens de partir. Mais qui reste derrière? Pour être sûr que l'intérêt militaire qu'on veut défendre dans cette zone-là sera préservé. Donc, ça, c'est ma première préoccupation. La seconde préoccupation, c'est que quand l'État doit occuper une zone, pour quelque activité que ce soit, la bonne démarche, c'est de faire une déclaration d'utilité publique qui donne les forces et les moyens à l'État de faire en sorte que les occupants puissent partir pour que l'État puisse dérouler ce qu'il doit dérouler. Mais je comprends, dans l'urgence, c'est une situation de guerre où on n'a pas le temps de faire tous ces arrangements. Sinon, les textes sont clairs sur ces questions-là. Ensuite, lorsqu'on a cela, il faut être sûr que, lorsqu'on va demander aux populations de partir, que l'ivraie ne vaut pas suivre le bon gré. C'est-à-dire que nous, on va déplacer nos populations en leur disant que c'est une zone d'intérêt militaire. Mais les complices qui sont avec ces populations-là, les agresseurs qui sont avec ces populations-là, on a quel moyen pour s'assurer qu'on ne va pas nous-mêmes aider ces gens-là à se transporter dans des zones où ils vont aller donc agresser nos populations.
Merci, Alka Soumaïga.
Merci à vous, Denis.